marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, recevez-vous.
Musique avec un S dans l'Italie fasciste.
Un matin, l'avisateur de la Scala vient me dire « Tu veux voir quelque chose de terrible ?» J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a dit « La Scala est détruite. » Non ! J'ai couru comme une folle. J'ai pleuré, vous savez, pour une journée entière. Tout le toit de la Scala était parti. Alors, tous ces beaux fauteuils, toutes neuves, tout ça, c'était en petits morceaux. Les petits rideaux qui fermaient les loges et tout ça. Enfin, j'ai regardé la Scala comme ça. Heureusement, le rideau de fer était resté fermé, parce que tout était détruit.
Gina Signac, qui fut une grande, donna Agna à la Scala. En 1943, après que s'est effondré le régime de Mussolini, le toit de la Scala se volatilise sous l'effet des bombardements alliés. La plus grande maison de musique du pays ne rouvrira qu'en 1946, l'année où le vieux maître Toscanini, retour d'exil, y fera une soirée triomphale. Toscanini avait choisi d'en partir dès 1929. Pourtant, les premières années du fascisme avaient mis en place un système d'enseignement et de diffusion de la musique qui ne manquait pas d'ambition. La reconnaissance encouragée du passé musical de la péninsule n'avait pas empêché la présence de la musique étrangère. Mussolini manifestait son intérêt pour cet art et auprès de lui, le très érudit ministre Bottai laissait se développer des formes modernistes. On sait que les futuristes en art avaient souvent partie liée avec le fascisme, lequel laissait ouvertes plusieurs pistes esthétiques. Tout cela n'avait pas laissé les professionnels indifférents. Toscanini avait cependant fini par détester l'utilisation politique que le régime voulait faire de son établissement. Très vite, après son départ, dès le début des années 1930, la Scala tomba d'ailleurs entre les mains des bureaucrates du régime. En 1932, à l'échelle du pays cette fois, plusieurs grands noms de la musique signèrent un manifeste où ils promettaient d'abandonner l'individualisme passé pour se jeter dans un lyrisme véhément qui corresponde enfin à la mission de la race italienne. Était-ce pour autant une proclamation de la possibilité d'une musique fasciste? La guerre contre l'Éthiopie en 1935 fit franchir un nouveau seuil. Les lois raciales excluèrent les musiciens juifs en 1938. Peut-être provoquèrent-elles plus d'émotions dans le milieu que celles que connut la France peu après. Le légendaire Eric Kleiber, chef invité à la Scala, refusa d'y diriger Fidelio, déclarant « Comme chrétien, je trouve ces dispositions inhumaines. La musique, comme l'air qu'on respire, est faite pour tout le monde. » C'était le temps du rapprochement avec l'Allemagne de Hitler. On tenta même d'inventer un axe Vivaldi-Bach. On était entré, en tout cas, dans le pompiérisme et l'autarcie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Un livre chez Fayard, musique avec un S dans l'Italie fasciste, et deux auteurs, Michela Nicolai, et ici présente Charlotte Ginos-Lassic. Bonjour.
Bonjour.
J'essaye de vous définir parce que, bon, vous êtes professeur d'histoire au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon. Mais alors, vous me dites qu'au Capitole, ça c'est à Toulouse, vous êtes dramaturge de l'orchestre. Alors, dramaturge qui travaille avec le metteur en scène, oui, mais un dramaturge d'orchestre.
En fait, il y a deux acceptions du mot dramaturge. Il y a l'acception à la française et il y a l'acception à l'allemande. Ou pour vous le formuler autrement, dramaturge d'édition, dramaturge de production. En Allemagne, on a plutôt majoritairement des dramaturges de production, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec le metteur en scène, qui sont une sorte de vivier d'idées pour une production. Et en France, on a des dramaturges de production, mais on a aussi des dramaturges d'édition, c'est-à-dire ceux qui sont finalement chargés d'accompagner une institution musicale dans toutes ses productions, à la fois écrites, culturelles, conférences, interventions, accompagnement du directeur musical.
Hier, vous parliez à l'orchestre de la Russie et vous avez fait une thèse sur l'Espagne dans la musique italienne.
Oui, c'est ça. Il n'y a aucun lien, apparemment.
Vous êtes universel.
Oui, ou j'aime bien la SNCF.
Oui, parce qu'on a oublié de dire que vous habitiez dans la région parisienne. Bon, mais ce n'est pas notre sujet. il faut qu'on en revienne aux origines avant de parler du fascisme. Les grands musiciens italiens de la génération des années 1880 qui vous occupent particulièrement, ils forment un bloc un peu.
Il forme un bloc qui est un bloc problématique parce que, en fait, dans cette Italie, disons, de l'orée du XXe siècle, au contour des années 1900, il y a deux ombres tutélaires qui sont des ombres encombrantes, hein, qui sont évidemment Verdi et Puccini. Il y a une génération qui est un peu plus âgée, qui est Mascagni, Leon Cavaglio. Et puis, il y a toute une génération de compositeurs qui ont tous un point en commun, c'est qu'ils sont nés en 1880. C'est pour ça qu'on les appelle la Generazione dell'Ottanta. En italien, c'est-à-dire la génération des 80, quoi, comme les 60s.
La génération en âge de faire la guerre ou en âge d'être touchée par la Grande Guerre à laquelle l'Italie va finir par se rallier sous l'influence notamment de D'Annunzio. Alors D'Annunzio, il a, dites-vous, la musique au cœur, c'est aussi quelqu'un dont les idées préludent à celles du fascisme, dont les thèmes vont se retrouver chez beaucoup de compositeurs, surtout après la grande aventure lyrique qu'il a menée à Fiume après la fin de la guerre, dans une terre irrédente qu'il aurait voulu rendre à l'Italie, mais qu'il va devoir quitter théâtralement.
Habitants de Fiume, j'ai voulu la guerre et je l'ai faite sans repos. Ayant appelé le peuple à combattre, j'ai pris au feu la place la plus dangereuse. Nous avons tous souffert. Nous souffrons tous. Je préfère la plus dure catastrophe au spectacle des frères dressés contre les frères. Où il y a les Fiumains, je suis chez moi. Et je remets mes pouvoirs au Conseil national. J'ai combattu pour un idéal. Je vous laisse ceux qui se sont battus pour leur maison. Et quant à ceux qui ont fait le sacrifice suprême, je vous remets leur mémoire.
Le langage exalté de D'Annunzio, on va le retrouver dans le langage musical de votre génération, des musiciens des années nés en 1880.
Oui, absolument. Et cette génération des musiciens nés en 1880, c'est-à-dire Alfredo Casella, Gianfrancesco Malipiero, pour ne citer que les deux plus célèbres, ou Respighi, ne sont d'accord sur rien globalement, mais ils sont d'accord sur une chose, c'est D'Annunzio. Et c'est la figure de D'Annunzio qu'on peut imaginer comme une sorte d'arbre tutélaire de la musique italienne, c'est-à-dire ou une source poétique à laquelle tous vont s'abreuver. Et donc tous ces musiciens mettent en musique des poèmes de D'Annunzio. L'autre élément, il me semble, c'est que D'Annunzio, vous l'avez très bien dit, représente finalement ou anticipe la collusion entre l'art et le politique. Parce que la façon dont il glorifie la morbidité, le militarisme, le nationalisme, l'idée d'une Italie qui est une Italie glorieuse, d'une Italie qui doit renaître, c'est un thème qui va se retrouver complètement exalté par le fascisme.
En octobre 1922, marche sur Rome des fascistes. Mussolini est porté au pouvoir assez rapidement dès 1924. On ne peut plus se faire d'illusions sur la violence de ce pouvoir. Le député socialiste Matteotti est assassiné après être intervenu à la tribune du Parlement pour critiquer Mussolini. Et c'est ce même printemps 1924 qu'a lieu, dans un climat plus paisible, au Palazzo Pitti à Florence, la représentation, la création en Italie de Piero Lunaire de Schoenberg. Alors, essayez de nous expliquer en quoi Schoenberg, c'est déjà très moderne et que ça commence à dessiner une rupture.
En une minute. La modernité de Schoenberg.
Oui. Ben vous êtes dramaturge.
Oui. Alors, la modernité de Schoenberg dans Piero Lunaire, pour les Italiens, on va spécifier la chose, c'est d'abord, je crois, une modernité qui est vocale, puisque Piero Lunaire, c'est une pièce qui utilise le principe du Sprechgesang. Sprechen, singen, parler, chanter, en allemand. C'est ça en allemand. C'est-à-dire une manière de dire les mots qui est entre une voix parlée et une voix chantée, qui est en fait une façon extrêmement théâtrale, inspirée des cabarets berlinois. Sauf que pour les Italiens, dans cette patrie de l'opéra, verdien, puccinien, etc., c'est un choc, cette façon de chanter. Je crois que c'est là le premier choc Piero Lunaire.
Alors dans la salle, il y a tous vos amis, Casella, vous n'avez pas cité Dalla Piccola, que vous connaissez très bien, lui aussi il appartient à la génération montante. Et puis il y a le patriarche Puccini. Alors Schoenberg lui a confié une partition Puccini écoute, un peu sceptique à la réflexion, il dit que c'est intéressant. Cette même année, Puccini va être nommé sénateur. C'est un peu bizarre de se laisser nommer sénateur juste après l'assassinat de Matteotti. De toute façon, il n'aura pas le temps de trop regretter cette nomination, puisque en novembre 1924, année cruciale 1924, Puccini meurt et il laisse inachevé Turandot. Et je crois que les dernières notes qu'il a écrites concernent la mort de Liu, ici interprétée par Angela Giorgio. Le régime fasciste va laisser ouvertes beaucoup de pistes, beaucoup de tendances sont possibles dans la musique. Il y a quand même une base continue, c'est la glorification de Puccini, l'exaltation des grands anciens, par exemple Monteverdi, par exemple Vivaldi.
Oui, et là on en revient à D'Annunzio, parce qu'en fait celui qui paradoxalement réintroduit Monteverdi en Italie, c'est D'Annunzio, qui était un splendide connaisseur de musique et qui a fait un grand roman qui s'appelle Le Feu, Il Fuoco. Et dans ce roman, en fait, il raconte le combat imaginaire, fantasmatique, entre Wagner et Monteverdi. Et c'est ce thème-là qui est à dire, en fait, l'identité italienne et l'idée de réécrire une histoire de la musique qui est une histoire glorieuse, qui va faire florès au sein des compositeurs et qui va finalement leur donner des idées pour commencer à penser leur musique à partir de nouveaux modèles.
Mais l'histoire peut redevenir glorieuse, il y a aussi des structures d'enseignement. Vous enseignez dans un conservatoire national à Lyon, tout un réseau de conservatoires est mis au point assez définitivement en 1930, mais il y a aussi des institutions qui permettent de se projeter à l'extérieur. Moi, je ne savais pas que les instituts culturels italiens avaient été créés dans les premières années du fascisme.
Oui, mais revenons à l'idée des conservatoires, justement. Alors, l'exemple, la comparaison avec la France que vous prenez est très éclairante, parce que nous, en France, on a le Conservatoire de Paris, créé en 1794, bon, institution qui a modélisé l'enseignement. Sauf qu'en Italie, il y a eu les conservatoires, Venise, Vivaldi par exemple, pour prendre les célèbres ospedali. Sauf qu'au début du XXe, ces conservatoires, ils existent, mais ils n'ont plus du tout la force, la modernité qui permettent d'accompagner de jeunes compositeurs dans la carrière. Et on voit très bien, quand on voit les récits de Malipiero, de Casella, de Respighi, ils ont beau être d'accord sur rien, ils sont au moins d'accord sur une chose, c'est qu'il faut rénover les structures. Et tous ces compositeurs vont s'intéresser à la pédagogie musicale, et pas uniquement à la pédagogie, à l'institution pédagogique. C'est ça qui est intéressant.
On comprend les raisons qu'ils ont de s'intéresser au régime fasciste. En plus, celui-ci met au point des structures destinées au plus vaste public. Bottaille, il est le ministre, le grand responsable de ces questions. Qu'est-ce que c'est sa titulature exacte?
Il va être ministre de la culture, en fait. On peut
oui,
prendre.
Mais il y a un nom extraordinaire.
Le Minculpop.
Minculpop.
Le ministre de la culture populaire.
Ça veut dire, par exemple, qu'on va faire des grands spectacles en plein air, dans les arènes de Vérone, au terme de Caracalla. Et votre coturne, Michela Nicolai, qui a rédigé ce livre chez Fayard avec vous, elle décrit longuement Le chariot de Thespis.
Les carri di Thespi li ricci. Les chariots de Thespis. Thespis était un dramaturge grec de l'Antiquité qui se baladait dans les campagnes avec ses troupes de théâtre. Et effectivement, ça va être de partir de cet imaginaire-là pour inventer en fait un système qui est incroyable, qui est un système d'opéra ambulant. Sauf que d'opéra, mais dans sa structure architecturale. Donc l'idée d'avoir des espèces de gigantesques salles avec des structures extrêmement souples.
Montables, démontables.
Voilà, oui. Exactement, et qui peuvent sillonner toute l'Italie, et qui vont d'ailleurs même monter dans l'Europe, elles vont faire un tour jusqu'à Bruxelles, et puis elles restent quand même majoritairement sur le sol italien.
On fait bon accueil aux musiciens étrangers, on va jouer à l'étranger, et d'ailleurs on n'est pas dans un système de repli sur soi, même si certains défendent mordicus, la musique bien de chez nous. Ici, on est dans une surprise partie, je ne sais pas si le mot existe déjà, en Italie, en 1925-1930, où on commence à jouer du jazz. Et puis on va entendre un grand trio d'origine hongroise, trois sœurs qui vont faire pénétrer le jazz dans l'Italie fasciste.
Qui veut boire un cocktail ou pour parler français une queue de coq? C'est noir, ils ont la musique dans le sang. Moi, ils me donnent la chair de poule. Regardez, j'en prie,
Franco, comment te débrouilles-tu pour avoir ces disques américains alors que l'Italie, on interdit l'importation?
Ah, ça, c'est un cadeau de Vittorio.
À Montefort, montagne de Prima, à Montefort. La nostalgia, il cuore mi fa trema.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Trio Lescano, trois sœurs hongroises qui vont faire carrière surtout dans les années 30. Alors justement, les années 30. Musique au pluriel dans l'Italie fasciste. Il y a un climat qui change au début des années 30. Avec, par exemple, en 1932, la publication, signée par pas mal de compositeurs, d'un manifeste de la musique fasciste. C'est possible ça, Charlotte Ginos-Lassic?
Oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a eu ce manifeste et non, il n'y a pas de musique fasciste, si je puis formuler les choses synthétiquement.
Ouais.
Oui, il y a eu un manifeste en décembre 1932 qui est signé en fait par les plus grands noms de la musique italienne, à l'exception des modernes, Casella, Malipiero, Dalla Piccola. Et dans ce manifeste, les Respighi, etc., expliquent que la musique italienne, c'est une musique qui est fondamentalement vocale et qui doit être fondamentalement lyrique. Et que la musique italienne, elle n'est pas spéculative, elle n'est pas instrumentale, elle n'est pas abstraite et elle n'est surtout pas moderne au sens de européenne. Et ça, c'est une attaque en règle, en fait, contre toute la première décennie du fascisme, qui avait été une décennie extrêmement ouverte sur un plan esthétique, dans lequel il y avait à la fois du vérisme, des choses très tonales encore, et puis il y avait toute une série d'expérimentations musicales et tout ceci cohabitait. Pas forcément très bien, mais ça cohabitait. Et puis le manifeste de 32, c'est le moment où les compositeurs italiens s'inscrivent en fait dans un tournant qui est politique et qui est le visage autarcique du fascisme et l'idée que désormais il y a une idée de supériorité de la race, il y a une dimension nationaliste de plus en plus pressante qui commence à arriver dans le champ social et donc dans le champ culturel.
La race. Elle est capable de véhémence lyrique et de missions grandioses. Ainsi, 1935, l'attaque de l'Abyssinie. Alors, dans votre livre commun avec Madame Nicolai, celle-ci étudie beaucoup la chanson. Voici une chanson de 1935. Nous sommes en Abyssinie. Et il est question d'une petite noire qui est là et qui du haut de sa montagne regarde la mer. Elle est esclave parmi les esclaves. Et voilà que un drapeau tricolore flotte au vent pour elle. Une flotte de navires se dirige vers l'Abyssinie. Petit visage noir, attends, espère, car l'heure est proche. Nous te donnerons une autre loi et un autre roi. Une autre loi que celle de l'obscurantisme.
Et ce qui est incroyable avec cette chanson, et finalement quasiment ironique, c'est que Petit Visage Noir, ça raconte aussi la beauté fantasmée de la femme colonisée, la sensualité, enfin tous les clichés qu'on a autour de la colonisation. Et cette chanson va avoir tellement de succès que le régime va s'en retrouver embarrassé. Et que donc il va tenter de la remplacer par une autre chanson, Petit Visage Blanc. Et qui est le Petit Visage Blanc ? C'est celle de la blonde fiancée italienne qui attend sagement
oui, parce que
au pays.
La petite noire qui rencontre le bel italien, ça va donner ce que vous appelez le madamisme.
Mais oui.
Qu'est-ce que c'est le madamisme ?
Ben, les unions mixtes. Ah. Les unions entre les Italiens qui sont en Éthiopie et les Éthiopiennes. Alors, il ne faut pas mythifier la chose. Ce sont des unions qui sont quand même dans un cadre de violence extrême à l'égard du peuple éthiopien. Mais du coup, il va y avoir progressivement, en fait, au fur et à mesure qu'en Italie arrive le virage autarcique, ce madamisme devient problématique. Parce que là, la supériorité de la race italienne, elle en prend un gros coup quand même. Hein.
Donc les métis ne peuvent pas avoir la nationalité italienne.
Et surtout, il ne faut plus que les Italiens s'inscrivent dans des unions avec les Éthiopiennes. Il ne faut pas mélanger, je reprends le discours officiel, les races.
Donc l'Éthiopie est un laboratoire pour les lois raciales qui vont être édictées en 1938 et donc pas seulement sous l'influence du rapprochement avec l'Allemagne. Le film La vie est belle de Benigni.
Maman.
Combien elle coûte ?
15 lire.
Ah, quand même, 15 lire. Non, mais regarde, c'est un faux gâteau, c'est un faux, c'est comme ton char d'assaut. Allez, viens, viens, allons-y. Viens, je suis.
Entrée interdite aux juifs et aux chiens.
Bon, hey, écoute, on y va, hein.
Pourquoi les chiens et les juifs n'ont pas le droit d'entrer, papa ?
C'est comme ça, ils ne veulent pas de juifs ni de chiens, chacun fait comme il veut, hein, chez lui. Je connais une cacaillerie, là, de pâtes ici. Par exemple, ils refusent les Espagnols et les chevaux. Et juste à côté, il y a une pharmacie, figure-toi. Hier, j'étais avec un ami à moi, un Chinois qui a un kangourou. Je leur dis, on peut entrer ? Non, les Chinois et les kangourous, ils n'en veulent pas. Ben, ils n'aiment pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Mais nous, à la librairie, on laisse entrer tout le monde.
Eh ben non, à partir de demain, nous aussi, on va mettre une pancarte. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, toi ?
Les araignées.
Moi, c'est les Visigoths. On va faire une pancarte entrée interdite aux araignées et aux Visigoths. Et alors ? Ils m'ont toujours cassé les pieds, ces espèces de Visigoths. Ça suffit.
Et les pancartes sur les maisons de musique interdites aux Juifs ? Et des recensements et des listes ? Comment les choses se passent-elles ?
Les Juifs étaient en Italie inscrits sur un certain nombre de registres. Il y avait des communautés qui étaient répertoriées. Et on le sait parce que il y a une historienne qui s'appelle Anne-Marie Matar Bonucci qui a fait des travaux qui sont essentiels sur la question. Elle
a été publiée à 5-6 ans en français.
Oui, absolument. Et qui a montré qu'en fait, paradoxalement, dans le pays du Vatican, il y avait beaucoup d'unions mixtes. Et que ça, c'était répertorié parce qu'on savait très bien quand une citoyenne ou un citoyen de la communauté juive épousait un citoyen catholique. Et que c'est finalement, en Italie, il y avait une forme de tolérance religieuse qui était plutôt bien ancré dans les réflexes des uns et des autres. Et ça se passait bien.
Luigi da Piccola, que vous avez déjà cité, qui est l'objet de votre thèse, Charlotte Gino Slasic, il était marié avec une juive. Ça n'a pas été sans importance pour son évolution, son éloignement progressif du fascisme. J'aimerais que vous nous fassiez la comparaison que vous faites dans votre livre entre Vol de nuit, inspiré par Saint-Exupéry, de la Piccola, dont on entendra un extrait dans un instant, et puis une œuvre, elle aussi inspirée par l'aviation, Il deserto tentato, de Casella, petit camarade de la Piccola, avec qui finalement il va se fâcher.
Mais Dalla Piccola et Casella occupent des positions extrêmement symétriques. C'est pour ça que leurs deux opéras sont aussi révélateurs, puisqu'ils sont tous deux italiens catholiques mariés à deux femmes qui sont d'origine juive.
Ah, Casella aussi.
La femme de Casella était juive, oui. Simplement, il ne l'a pas travaillé de la même manière que Dalla Piccola dans ses écrits après. Et tous deux ont fait deux récits d'aviation parce qu'en fait, l'aviation dans cette Italie, c'est l'emblème absolu de la modernité, puis c'est aussi l'emblème du sacrifice. Sauf que le sacrifice chez Dalla Piccola et chez Casella n'ont pas le même sens. Il deserto tentato, ça raconte un groupe d'aviateurs qui atterrissent dans le désert éthiopien, en pleine conquête d'Éthiopie, qui vont rencontrer des Éthiopiens. Une bataille s'engage. Évidemment, les Italiens vont gagner avec leur supériorité technique. Et ils finissent par ériger avec les Éthiopiens de gigantesques gratte-ciel et la terre informe devient enfin une civilisation. Donc en fait, il y a tous les clichés de la colonisation, du progrès technique, de la supériorité occidentale sur l'Afrique. Voilà, c'est vraiment un opéra qui centralise les grands thèmes fascistes.
Tandis que dans Vol de nuit, inspiré par Saint-Exupéry, nous sommes dans l'aviation civile, l'aéropostale, comment faire circuler le courrier. On va entendre ici Rivière qui est à terre, qui est l'opérateur interprété par Correas, Jérôme Correas, et il appelle les pilotes qui sont dans le ciel, il les lance contre l'inconnu, peut-être contre la mort, mais dans le commandement, il y a de l'amour et de l'estime. Les intentions de Rivière quand il lance ses avions ne sont pas du tout les mêmes que les intentions des aviateurs de Casella.
Bien sûr, Vol de nuit, c'est une réflexion sur la solitude et sur la peur de la mort, ce qui est fondamentalement antifasciste, si je puis me permettre. Puisque le pilote qu'il va lancer, Fabien, qui va se retrouver perdu dans les airs, va affronter la plus grande des peurs. Et il va l'affronter en tremblant jusqu'à ce qu'enfin il arrive aux étoiles, dans une perspective qui est chrétienne, mais... Avant ça, il y a eu un trajet qui est un trajet bouleversant. Et ça, je crois que cette question de la solitude et de l'être rendu au plus seul est quelque chose qui est complètement en marge des grandes thématiques fascistes.
L'homme devant ses responsabilités dans sa liberté. L'opéra est créé le 10 mai 1940, c'est-à-dire au moment où l'Italie fasciste entre en guerre contre la France. Dalla Piccola, je pense qu'on peut finir avec lui parce que il est reclus pendant la guerre et il va écrire peut-être son chef-d'œuvre, Le Prisonnier, Il Prigioniero.
Oui. Il est reclus parce qu'il doit cacher sa femme, quand même, qui est menacée directement. Et puis, il y a effectivement cette œuvre, Le Prisonnier, créée en 47-48, qui est une réflexion sur le fascisme et sur ce que l'institution fasciste fait aux individus, et où il est question d'un prisonnier qui est retenu, pour des raisons qu'on ne connaît pas, par l'Inquisition. Mais l'Inquisition est là une métaphore évidente du fascisme. Et cette Inquisition va lui faire croire qu'il peut s'échapper. Et elle va lui redonner espoir. C'est évidemment un gigantesque piège, et c'est un piège qui consiste à dépouiller l'individu de la dernière chose qui lui reste, l'espérance.
Mais Dalla Piccola, il est aussi peut-être déçu par l'attitude de l'Église pendant la Deuxième Guerre mondiale, et l'Inquisition désigne peut-être aussi le Vatican. En tout cas, la leçon, c'est « Mon plus grand amour, c'est pour les hérétiques et les persécutés ».
Absolument.
Merci à vous, Charlotte Ginot-Slasik, avec Michaela Nicolai, un livre musique au pluriel dans l'Italie fasciste. C'est aux éditions Fayard. L'émission a été préparée par Anna Massardier, Franck Olivard et Linka Negulesco.